Et bienvenue dans l'émission Radio G, l'émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty International. Sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous recevons Salah et Mohamed du Centre culturel des musulmans de Trélazé. Puis nous écouterons, écouterons une nouvelle chronique de Céline, notre veilleuse du chemin de traverse, et nous passerons en revue l'actualité des droits humains avec les bonnes et les mauvaises nouvelles. Dans la rubrique biographie, il vous sera proposé un portrait d'une femme extraordinaire actuellement sous les feux de la rampe. Et enfin, nous terminerons par l'agenda culturel. Mais tout d'abord, Philippe, dans ton éditorial, tu voulais combattre les idées fausses assénées en permanence à propos de l'immigration.
Oui, il est essentiel d'aller au-delà des faux débats médiatiques en s'appuyant sur des données objectives. L'un des meilleurs spécialistes de ces questions se nomme François Errant, ancien directeur de l'INET, l'Institut National d'Études Démographiques. Il occupe depuis juin 2017 au Collège de France la chaire Migration et Société. Il nous dit que la mobilité humaine est une chose normale. La migration est devenue un phénomène tellement banal qu'il n'y a aucun sens à dire qu'on est pour ou contre. D'où le titre de son dernier livre, Avec l'immigration. Une personne sur quatre vivant en France est immigrée ou enfant d'un parent immigré. C'est le même ordre de grandeur qu'en Allemagne ou aux États-Unis. L'INED est d'ailleurs en train de refaire l'enquête Trajectoire et Origine, qui inclut désormais des questions sur les origines des grands-parents. Sur trois générations, on devrait se rapprocher du constat qu'un tiers de la population vivante en France est d'origine immigrée.
Alors que faut-il penser de l'annonce dramatisée de la ruée africaine vers l'Europe ?
En effet, le journaliste Stephen Smith a publié en début d'année un livre racoleur intitulé « La ruée vers l'Europe » et sous-titré « La jeune Afrique en route vers le vieux continent ». Et en avril dernier, le président Macron a justifié sa politique migratoire restrictive en invoquant, je cite, « la bombe de la démographie africaine », formidablement décrite selon lui par le chercheur. On sait que le développement économique favorise l'émigration au lieu de la réduire et que les pays trop pauvres migrent peu. Smith suppose donc que l'Afrique se développera autant que le Mexique d'ici 2050 et du coup devrait émigrer autant que les Mexicains aux États-Unis. Il emprunte ce parallèle à un éditorialiste américain. Or, l'hypothèse qu'en moins de 30 ans, l'Afrique puisse remonter la moitié de l'échelle mondiale du développement, c'est-à-dire rejoindre le Mexique, est invraisemblable selon François Héran. Il en ressort un fait essentiel, à savoir que 70% des migrants subsahariens migrent dans un autre pays d'Afrique et 15% seulement chez nous. Cette répartition étant d'ailleurs assez stable depuis 15 ans. Donc, la prophétie de Smith est parfaitement irréaliste.
Un autre argument avec lequel on fait peur, c'est l'idée que l'immigration serait incompatible avec l'État-providence.
Il s'agit d'un propos de comptoir jamais démontré. On oublie toujours que les migrants sont aussi, même si ce n'est pas immédiat, des producteurs, des consommateurs, des contribuables et des cotisants. L'idée qu'ils prennent le travail des nationaux ou ponctionnent la protection sociale reprend l'image trompeuse du gâteau à taille fixe. L'OCDE, qui n'est sûrement pas un repère de gauchistes, a étudié l'impact de la migration sur les budgets des États européens. En fait, c'est un impact faible ou inexistant. Car les migrants coûtent quand ils sont jeunes, c'est vrai, mais ils rapportent quand ils sont actifs. Et ils coûtent à nouveau quand ils sont vieux, mais c'est exactement comme le reste de la population.
Alors comment caractériser la politique migratoire de la France actuellement ?
Eh bien, selon François Héran, à chaque grande crise migratoire récente, que ce soit celle liée aux guerres d'ex-Yougoslavie ou au conflit syro-irakien, la France a accueilli, en proportion de sa population, 8 à 10 fois moins de demandeurs d'asile que l'Allemagne. Elle pratique, en fait, très peu l'accueil humanitaire comparé à la Suède, aux Pays-Bas et bien sûr à l'Allemagne. De nos jours, tout indique que notre politique d'attribution des visas discrimine également les ressortissants de l'Afrique. Quand on compare leurs chances d'obtenir un visa avec les sujets d'autres pays à âge et diplôme égal.
Donc, il faut dénoncer avec force la théorie des vases communicants développée dans de nombreux médias.
Et oui, en s'appuyant enfin sur des données incontestables. Il faut réfuter l'idée que les populations se déversent mécaniquement des pays à forte fécondité vers les pays à faible fécondité. À ce jour, ceux qui comptent au moins 4 enfants par femme ont envoyé seulement 5% de leurs migrants vers les pays ayant moins de 1,7 enfants. Pour illustrer sa pensée, François Héran a cette formule: l'immigration, c'est une infusion durable, mais pas une intrusion massive.
Merci Philippe. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Salah et Mohamed. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre association ?
Bonsoir, donc je suis Mohamed. Donc l'association culturelle des musulmans de Trélazé est une association donc régie par la loi 1905. Mm-hmm. Elle est à but non lucrative et reconnue d'utilité publique et d'intérêt général. Cette association, elle a été créée en 2001 par une quinzaine de membres qui, au fait, ces membres-là avaient l'habitude à l'époque d'aller à la mosquée d'Angers qui se trouvait à rue Saint-Exupéry. Et vu que cette mosquée elle avait été déplacée à près de Carrefour aux anciennes abattoirs, donc ces gens-là ne pouvaient plus y aller. Du moins, vous savez, y aller 5 fois par jour, ça représentait quand même. Et puis, donc voilà, ils se sont constitués en association et ils cherchaient un local sur Trélazé pour pouvoir faire leur prière. Ça a duré, je dirais, 3 ans. Après, on a refait une demande à la mairie qui nous ont mis à notre disposition un local d'une vingtaine de mètres carrés près de la piscine. Ça a duré, je dirais, 3-4 ans, mais les locaux sont devenus trop vite exigus pour nous. Et parce que nous avions de plus en plus d'adhérents et les locaux n'étaient pas du tout adéquats pour nos activités. Donc par la suite, la mairie nous avait proposé quelque chose de plus correct. C'était l'ancienne fermette qui se trouve rue des Lamboyaux.
Et vous avez retapé le local, je crois.
Au départ, c'est la mairie qui l'a retapé. D'accord. Ils nous l'ont loué pendant 3 à 4 ans jusqu'en 2012. D'accord. Ensuite, ils nous ont proposé de l'acheter, chose faite. Mmh. Il y a eu un super élan de tous les musulmans de Trélazé et des environs.
D'accord.
Et en fait, nous avons acquis ce local. Et qui est toujours nos locaux actuels.
Oui, oui.
Et en ce moment, comme vous pouvez le voir, nous sommes en plein agrandissement. Et voilà, parce qu'on a toujours de plus en plus de...
Alors, vous avez combien d'adhérents, justement?
Nous avons exactement... Alors, nous sommes 70, si je ne me trompe pas, 70 adhérents actifs.
Oui, d'accord.
Et... plus d'un millier d'adhérents usagers, quoi.
D'accord.
Ce qu'on appelle adhérents usagers, ceux qui viennent quotidiennement, de temps à autre.
Et d'accord. Quelles sont vos activités?
Alors, nos activités...
Alors, il y a, si je peux répondre...
Oui,
ça va, allez-y.
Voilà, il y a plusieurs activités au sein de l'association. Donc, c'est vrai qu'à l'origine, on a répondu à une demande de la part des anciens, on va dire, qui avaient besoin d'un lieu de culte. Mais il est vrai que c'est une association culturelle. Donc, du coup, on a fait des propositions également, par exemple, de donner des cours de langue arabe aux enfants qui n'en ont pas forcément ailleurs. Seconde chose, du soutien scolaire, par exemple. On fait également l'ouverture du lieu, du centre culturel lors des journées du patrimoine. Mm-hmm. On est également sur des projets interreligieux, donc avec la paroisse qui est notre voisine, donc Saint-Lézin, et avec aussi la mosquée qui est voisine, enfin voilà.
Vous avez fait une sortie d'ailleurs ensemble, je crois.
On a fait une sortie récemment, donc ça fait 2-3 ans qu'on est sur des projets, donc on a réussi à concrétiser au mois de juin une randonnée de 5 km ce qui nous a permis de visiter tous les 3 lieux de culte, donc que ce soit l'église et les 2 mosquées. Donc ça a duré toute une après-midi, c'était vraiment un très très bon moment. Au-delà de ça, on est également sur des projets solidaires, donc il y a une équipe qui intervient sur les chemins de traverse, ce qu'on appelait anciennement Rouchi, au niveau du CADA, donc le centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Et vous êtes combien à intervenir au chemin de traverse?
Alors on est une équipe d'une quinzaine de bénévoles. Et donc du coup, pour éviter que ce soit trop lourd, parce qu'on intervient tous les mardis de 19h à 22h, on a constitué 3 ou 4 personnes.
D'accord, voilà.
Donc on intervient aussi également avec des personnes de la LDH et des bénévoles comme ça qui viennent à titre personnel. Donc au niveau des chemins de traverse, on a ce groupe qui sort, et on a aussi des bénévoles qui préparent à manger pour les personnes qui viennent au niveau du centre.
Vous venez avec de la nourriture.
On vient avec de la nourriture, donc il y a de la préparation,
de l'excellente nourriture, parce que j'y ai goûté, c'est remarquable.
C'est vrai qu'on a que des retours positifs, ça c'est une réalité. Donc préparation de repas chauds, préparation de vêtements chauds aussi. Oui. Là, c'est vrai que c'est l'hiver et les demandes qu'on a, c'est beaucoup de vêtures plutôt, plus que repas. Donc on arrive concrètement avec une planche, deux tréteaux, on s'installe et on distribue les denrées alimentaires qu'on a.
Oui, d'accord.
Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Et est-ce que on peut vous contacter quelque part particulièrement s'il y a des gens intéressés?
Eh bien, écoutez, on a une page Facebook d'Association culturelle des musulmans de Trélazé qui marche très bien, sur laquelle on est très réactif. Et autrement, on a notre mail qui marche très bien aussi, donc associmt@gmail.com. associmt@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des questionnements, on est là pour répondre.
D'accord. Moi, j'ai consulté le site, effectivement, il est très intéressant.
Voilà. Et vous pouvez également venir nous voir au 59 rue des Lamboyaux, il n'y a aucun problème, on vous accueillera les bras ouverts.
C'est à Trélazé.
Merci beaucoup
à vous deux.
Merci à vous pour votre accueil.
On se retrouve après une pause musicale.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre
que vous lirez, peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. J'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne et en Provence. Je crierai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Vous venez d'écouter la voix de Juliette Gréco, cette voix magnétique qui chantait une reprise du Déserteur, chanson écrite par Boris Vian. Et il est temps maintenant d'écouter la nouvelle chronique de Céline, notre veilleuse du centre d'hébergement d'urgence d'Angers, situé au chemin de Traverse.
Lorsque nous arrivons au chemin de Traverse, il y a peu de monde et les personnes arrivent tranquillement les unes après les autres. Pas de bousculade devant les tables, il y a largement assez de nourriture pour tous et de boissons chaudes. Des vêtements sont distribués, les manteaux bien chauds sont très appréciés. Trois personnes de l'UMPS passent environ une petite heure à l'écoute des usagers. Ils distribuent aussi des boissons chaudes et viennent discuter avec nous, s'informer du fonctionnement et de ce que nous faisons. Un répit est proposé pour le week-end à la famille H. Ils acceptent heureux, reste à fixer les modalités. Avant 21h, nous décidons de mettre à l'abri Simon qui a froid. Nous appelons Marie-Odile. Elle vient, elle veut bien l'accueillir avec sa maman et propose même d'en prendre davantage. Elle viendra donc chercher Simon, Régaté, ainsi que Spartak et sa mère. Après 21h, il reste trois places côté hommes. Elles seront pour Bashkim et son père et un jeune Georgien. Sophie vient chercher le reste de la famille I. Alain vient chercher Dabo et Serem. Elle est arrivée de Guinée-Bissau depuis quelques jours seulement. Elle va faire sa demande d'asile. Dabo, lui, attend sa convocation à la CNDA. Arjol et son copain Heraldo sont emmenés à la paroisse. Le jeune Soudanais, qui n'avait pas de place, est parti avant que nous ayons eu le temps de lui proposer quelque chose. Au final, il y avait donc 12 personnes sans place, dont un enfant de 12 ans. Nous n'avons laissé personne dehors, une soirée tranquille, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps.
Et il est temps maintenant d'écouter les nouvelles. Et nous commençons, Sophie, par un déchaînement de violence au Pakistan.
Oui, je vais vous parler d'Asia Bibi, chrétienne pakistanaise, qui avait déclaré être coupable de blasphème pour avoir bu un verre d'eau provenant d'un puits réservé en principe aux musulmans. Accusée de blasphème contre le prophète, elle a été emprisonnée, jugée en novembre 2010 et condamnée à la peine capitale par pendaison. Mais après une bataille judiciaire de près de 10 ans, elle a finalement été acquittée mercredi dernier. Cette annonce a profondément